Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ingénieure, psychothérapeute, Sarva Amamitra est un enseignant en art de la vie traditionnelle ayurvédique. Spécialisée dans l'Ayanta Vedanta, une philosophie de la non-dualité, professeur de yoga et praticien de massage en Ayurveda, il passe plusieurs mois chaque année en France pour partager les traditions de son pays. Il a suivi un cursus de psychologie à la faculté de Montpellier. Riche de la connaissance indienne et européenne, il fait le lien entre nos deux cultures. Dans cette émission Regarde ailleurs, nous reviendrons sur son parcours. On y parlera d'hindouisme, de yoga, de dualité et d'ayurveda. Avec moi, donc Ekarshi Sarva Atmamitra. On va parler de toi, on va parler de l'Inde, de l'ayurveda. L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc Regarde ailleurs, c'est cette envie de faire des rencontres sur mon chemin, des rencontres en France, des rencontres à l'étranger. Et tourner son regard sur l'autre, tourner son regard sur le monde, parce que c'est dans cette diversité culturelle qu'on arrive à se rencontrer soi. Et c'est dans cette diversité qu'on peut puiser différentes idées pour trouver souvent son propre chemin intérieur ou extérieur. Donc avec toi, Ekarshi, on se retrouve ici sur un festival. Et sur ce festival, différentes délégations, différentes traditions, différents pays sont représentés. Ekarshi, toi tu es indien, mais on va prendre le temps de te rencontrer, savoir qui tu es et ce que tu fais ici. Donc on va revenir il y a bien longtemps. D'où viens-tu? Qui es-tu?
Je viens d'Inde, donc je suis indien, indien du Sud. Donc ça fait 33 ans que j'ai enseigné le yoga en Inde et aussi en Europe, principalement en France.
Donc Inde du Sud, tu peux préciser de quelle partie?
C'est Kerala, l'état de Kerala, qui a 40 millions d'habitants quand même. Donc c'est le plus petit état de l'Inde. Particulièrement pour Ayurveda, nous avons gardé la tradition de l'Ayurveda. Je ne peux pas dire que c'est le seul endroit, mais c'est quand même c'est l'endroit le plus favorable pour s'occuper de soi, pour la santé, pour purifier le corps et l'esprit. Donc il y a le yoga et l'Ayurveda et énormément de formes d'art qui sont aussi conservées au Kerala.
Donc l'Ayurveda, on en parlera un peu plus tard dans cette émission. Donc tu me dis que tu es né dans le sud de l'Inde, au Kerala, mais aujourd'hui je te rencontre en France et tu parles le français. Donc que s'est-il passé?
Alors parce que en général les Indiens ils parlent anglais parce qu'on commence à apprendre l'anglais à partir de 4 ans. Et comme tous mes copains parlaient anglais, je me dis moi j'ai envie de parler une autre langue. C'est comme ça que je me suis intéressé à la langue française et puis ça m'a ouvert vraiment un monde qui m'a transformé. J'ai rencontré chaque français qui m'a appris un mot. En fait, c'est comme ça que petit à petit j'ai constitué un vocabulaire et je n'ai pas vraiment appris à parler à une école pour apprendre à parler. C'est vraiment par des rencontres. Je me suis improvisé.
Tes parents étaient là, on souhaitait que tu apprennes le français ou c'est vraiment qu'une décision personnelle que tu as prise?
C'est une décision personnelle. C'est, pourtant, beaucoup de gens qui m'ont découragé pour les Indiens, c'est l'anglais qui est plus important parce qu'on peut aller un peu partout dans le monde et français, c'est pratiquement pas du tout important par rapport à l'Inde et la grandeur de l'Inde qu'on considère. Mais par contre, moi j'étais très intéressé également et aussi influencé par des écrivains comme Bergson et Victor Hugo, beaucoup de Romain Rolland et Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est dans ma vie, dans mes études, j'étais vraiment spontanément intéressé par la culture française et puis je ne connaissais pas vraiment à part la littérature. Et ça m'a beaucoup donné parce que c'est... parce que l'Inde est colonisée par la culture anglaise, donc c'est vraiment, nous sommes énormément influencés par les Anglais. Je me dis, il faut tourner vers une autre culture, et pour moi ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup.
Mais alors qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser au yoga et à l'ayurveda, alors que tu étais dans un cursus universitaire et scientifique?
C'est pendant cette étude, j'étais loin de mes familles, et ça m'a permis d'aller fréquenter les swamis, des ashrams, des maîtres, lire Swami Vivekananda, lire Narayana Guru, c'est des grands maîtres. Et leurs écrits qui m'ont vraiment donné la réponse à mes questions. Et là, j'ai compris que ma voie, c'est la quête des soi, la recherche de l'harmonie en moi, dans le monde. Et c'est comme ça que je suis venu dans le yoga. Yoga, c'est l'outil exceptionnel, incomparable pour la sérénité intérieure, pour régler tous les problèmes du monde. Parce que le yoga s'occupe de la concentration. Yoga nous aide à avoir une hygiène mentale. Yoga permet en fait de se voir soi-même et le monde. Yoga nous permet la clarté.
Alors je veux bien effectivement que tu approfondisses et que tu définisses ce qu'est le yoga, parce que nous en Europe, quand on pense yoga, on voit essentiellement les postures.
C'est vrai, c'est une porte d'entrée en fait. Donc, mais il ne faut pas rester juste à la porte, quoi. Donc il faut vraiment entrer à l'intérieur, découvrir tout ce que le yoga nous propose. Bien sûr, je ne peux pas respirer si je n'ai pas une posture assez correcte. Donc, posture, la pratique des postures spontanément qui nous amène à la respiration. Et le souffle, en fait, c'est la vie. Le mouvement d'expire et inspire, ça nous aide à comprendre qu'avec le souffle, on peut se rattacher au présent. On peut comprendre également la pensée, la parole et le souffle sont liés. Quand le souffle est harmonieux, on peut ressentir le bien-être. Quand on est triste, on respire d'une façon. Quand on est heureux, on respire d'une autre façon. Donc, la maîtrise de souffle qui va nous aider à comprendre, en fait, le souffle détermine l'état d'esprit. Et donc, on peut avoir un accès sur des processus inconscients de nous-mêmes et comprendre comment la pensée fonctionne, comment la pensée nous amène l'enfer ou le paradis. La maîtrise de pensée qui va nous amener à la découverte de la conscience, le penseur. La penseur, il n'y a pas de pensée sans la penseur. Donc la découverte du penseur, c'est le plus grand de découverte parce que c'est la conscience qui nous anime, nos pensées, nos souffles, notre corps. Et c'est une force cosmique. Donc cette découverte, en fait, pour le yoga, c'est fondamental et ça nous amène à la prise de conscience de notre sacré qui est à l'intérieur de nous, notre dignité. À partir de là, on s'incline plus jamais devant aucune force extérieure. On sait qui on est et que cette grandeur de nous-mêmes libère l'individu.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est vrai qu'au début, on n'est jamais sûr. Donc, j'étais entre ces deux voies, entre une construction matérielle et d'avoir un travail et avoir un statut social et le besoin spirituel. Donc, j'ai continué mes études universitaires en fréquentant les maîtres. Donc, cette phase, ça n'a pas duré longtemps. À 20 ans, j'ai décidé finalement choisir vraiment le yoga et la philosophie indienne pour me construire. Et c'est ça qui m'a aidé à rencontrer mon maître.
Donc à ce moment-là, tu continues d'apprendre le français, mais tu vis en Inde.
Exactement. Jusqu'aux 26 ans, j'ai vécu dans l'ashram tout le temps avec mon maître, en étudiant le yoga, la philosophie. Et à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un, un prof de yoga français qui est venu. Et c'est lui qui m'a donné les premières leçons véritablement de français. Il m'a parlé de sa vie, etc. Donc on est devenus amis. Et progressivement, on a créé des liens d'amitié. Il est plus là. C'était lui qui m'a ouvert la porte vers le monde, quoi. C'est le monde européen.
Et qu'est-ce qui fait que tu choisisses de venir en Europe ? Parce que là, tu es dans cet ashram avec ton maître en Inde. Pourquoi tu as fait le choix de quitter l'ashram pour venir ici ? Tu aurais pu continuer à étudier les Vedanta, la Bhagavad Gita, le yoga chez toi, dans ton pays ?
Je n'ai pas quitté, je ne peux pas quitter. En fait, dans le chemin spirituel, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a qu'en avant. Comment on peut reculer dans une situation moins intéressante ? C'est spiritualité, c'est aller vers la lumière. Donc, un ashram, c'est littéralement, ça veut dire atelier de soi. Un endroit où on peut s'améliorer. Donc, certainement, les voyages, ça nous aide beaucoup à grandir. Je n'ai jamais quitté l'ashram, je n'ai jamais quitté l'enseignement, ni les maîtres. Ils sont tous avec moi. Mais le voyage, ça m'a aidé à apprendre d'autres choses. C'est vrai que c'est assez rare pour un Indien de pouvoir voyager. Donc en vivant en France, déjà, j'ai ressenti une autre ambiance que l'ambiance que nous pouvons ressentir dans le monde anglophone. Parce qu'anglais, c'est un autre monde, en fait. Donc c'est comme la majorité des Français refusent de parler anglais, ça crée en fait un espace libre. Par exemple, un livre, quand c'est écrit en anglais, ça prend pratiquement 20 ans pour que ça soit traduit en français. Donc entre les deux langues dans le monde français est en fait protégé, c'est pur. Il n'y a pas beaucoup d'agitation, donc les Indiens parlent en anglais, les Américains, les Anglais, les Australiens, les Africains, tout le monde parle. Donc le monde anglais, c'est très, je dirais, pollué. Donc moi j'ai choisi, mais les événements qui m'ont aidé à choisir en fait, de pouvoir rester et créer des liens avec la culture française. Et que nous n'avons pas cette problématique de la colonisation avec la France. Donc il y a un lien qui est juste et bon. Okay.
Donc tu vis entre la France et l'Inde.
Exactement. C'est humoristiquement, j'ai dit, quand il fait chaud là-bas, je viens ici. Quand il fait trop froid ici, je retourne.
Comment est-ce que vous avez rencontré votre maître spirituel et quand ?
C'était le début de ma quête, hein. C'est-à-dire j'ai beaucoup lu et j'ai connu mon maître à travers ses écrits. Un jour, vraiment, je suis allé accidentellement en fait, donc à Trivandrum, il y avait une conférence de lui et j'ai écouté parler mon maître. C'était le premier rencontre. Et puis le temps passe et à un moment donné, j'ai ce grand désir d'aller vers lui pour devenir son élève. Je suis allé devant la porte, j'étais là, il y avait beaucoup de monde. Et puis j'ai vu qu'il était en train de vivre un peu comme tout le monde. Il blaguait, il discutait, il enseignait. Mais je me suis dit, c'est un maître, c'est pas comme ça. Un maître, l'image de maître pour moi, c'est pas comme ça. Quand cette pensée est sortie et un peu une critique qui est arrivée. D'un coup, comme il était piqué par quelque chose, il tourne le regard vers moi et comme s'il a senti mes pensées. Donc pour moi, c'était un signe. Moi, je cherchais quelqu'un qui est capable de me ressentir, m'écouter, me comprendre. En fait, ma recherche, ce n'était pas forcément une connaissance de soi. Et c'est au-delà de ça, c'était une recherche de guérison. Parce que tout ce que nous vivons, tout le monde a ses propres traumatismes. J'ai senti dans sa présence un certain soulagement. Au fond de moi, au-delà des quêtes spirituelles et intellectuelles, je cherchais un père spirituel. Il m'a offert cela, mais j'ai compris que c'était un homme, mais c'était pas... Un père, il m'a servi comme une mère. Il m'a nourri, il m'a accueilli, il m'a aidé à à aller vers une guérison. Cette guérison, c'était fondamental.
Est-ce que tu peux nous parler de cette notion de maître et d'élève en Inde, de gourou ? C'est quelque chose d'assez fréquent de chercher un maître ou un gourou ?
C'est l'hindouisme. L'hindouisme, ce n'est pas comme toute autre religion. Les hindous, on ne devient pas hindou. On est hindou. Tout le monde est hindou. Les autres religions, on a besoin de passer par une circoncision ou un baptême ou un refuge chez les bouddhistes, par exemple. Par cette transition, donc quitter notre état naturel et aller vers un autre. Donc, chez les hindous, il n'y a pas. On est humain, ça suffit. Nous sommes façonnés par l'univers. Un arbre n'a pas une identité chrétienne, musulmane, il n'y a pas ça. Donc, aussitôt que chaque individu écoute son cœur, il est hindou. Un chien aboie parce que c'est un chien, il respecte son dharma, sa nature intrinsèque. Donc l'hindouisme parle de cette écoute de cœur. C'est-à-dire chacun doit écouter dans son essence qu'est-ce que c'est qui est inscrit, on appelle le dharma. Si je suis en mangui, je fais du mangue, c'est normal. Ainsi, on n'a pas besoin de coller une étiquette, ça suffit d'être nous-mêmes, parce que c'est l'univers qui nous a façonnés. On n'a pas besoin d'autre chose que nous sommes. Donc, deviens ou redeviens ce que tu es, c'est ça l'enseignement. Connais-toi toi-même, c'est ça l'enseignement. Pour les hindous, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent savoir qui il est vraiment. La quête d'identité véritable. Donc si un individu ne sait pas qui il est, il a besoin de rencontrer quelqu'un qui sait qui il est.
On est un petit peu dans ce monde aujourd'hui, en quête de sens. On voit bien que de plus en plus de gens à 30, 40 ans font des changements de vie et essaient de remettre un petit peu de sens et de conscience parce qu'on a oublié d'où on venait et qui on était. Donc quel est le bon chemin pour savoir qui on est ? Comment est-ce qu'on fait si on a envie de se rencontrer soi ?
Alors pour ça, on a besoin d'un miroir, pas un miroir qui reflète le corps, mais reflète le cœur. Mais comment on peut se rencontrer ? On a besoin de se regarder, mais comment on peut se regarder si on ne s'aime pas ? Donc l'amour de soi est fondamental. Mais comment on peut s'aimer soi-même dans une façon inconditionnelle ? Donc souvent quand on parle de l'amour, on se culpabilise pour s'aimer en fait, parce que le monde dit « ça c'est égoïste, tu penses à toi ». Mais en fait le yoga nous aide en fait à découvrir le besoin de se respecter, s'aimer. Mais ce n'est pas au prix des autres, ce n'est pas, narcissique. C'est un maître en fait, c'est lui qui va te accepter tel que tu es, qui va t'offrir un espace libre pour que finalement tu peux tourner ton regard sur toi-même. Connais-toi toi-même. C'est ta tauromachie, c'est tu es cela. Ça veut dire ce qu'on cherche au fond de nous, c'est nous-mêmes. Malheureusement, on cherche notre reflet dans les yeux des autres. Et c'est là qu'on se trompe profondément, on se perd dans l'autre. Donc une fois notre capacité intellectuelle grandit suffisamment pour qu'on puisse tourner notre regard vers soi. C'est assez prenant cet aspect de recherche de soi parce que nous n'avons pas les moyens. On ne nous a pas appris comment se taire à l'intérieur pour pouvoir se voir. Nos émotions, nos pensées nous perturbent tout le temps. Tant qu'on n'est pas assez tranquille, on ne peut pas se rencontrer.
Et donc le yoga est une des voies possibles pour se rencontrer soi.
Yoga cherche cette connaissance de soi. Mais il y a beaucoup d'applications. Parce qu'il n'y a pas que la connaissance de soi. Mais par cette connaissance de soi, on va voir le monde. Parce que chacun perçoit le monde tel qu'il est. Mais une fois que nous connaissons qui sommes-nous véritablement, on va réapprécier le monde différemment. Parce que le monde, ce que je vois, c'est ma création. Et donc, nous sommes créateurs de notre propre monde. Là, le statut de l'individu, il est considérable. Normalement, nous sommes dans dans une certaine dévalorisation de soi. C'est pour ça qu'il y a autant de luttes, autant de guerres, autant de conflits dans le monde. Chacun cherche à trouver sa place, plus de possession, plus de plaisir, plus de bonheur, plus de reconnaissance. Une fois qu'on se connaît soi-même, on est en dehors du jeu. Nous sommes libres parce qu'on a compris notre dignité. On n'a pas besoin d'aucun certificat qui vient de l'extérieur. On n'est plus influencé par le mécanisme de la peur. C'est la peur qui domine le monde. Tout le monde marche dans la peur. Mais un yogi, il est libre de la peur. Pas me prétendre comme je suis spécialiste, mais je suis un étudiant de Advaita Vedanta. C'est mon éducation, donc dans notre ashram, on a étudié les Upanishads, la Bhagavad Gita et tous ces écrits indiens sont basés sur cette notion de un. Le un, c'est important de comprendre que le conflit est né de la dualité. La dualité, c'est une projection de l'esprit. Malheureusement, nous avons développé une vision très partielle du monde. On considère le monde, mais on ne considère pas l'individu. Comme s'il y a un grand décalage entre l'objet et le sujet. On donne beaucoup d'importance, on attribue énormément de réalité au monde matériel extérieur, mais l'individu, on rejette. Parce que quand on fait un scanner du corps, on ne voit pas l'âme, donc l'âme n'existe pas. C'est-à-dire, il y a un rejet de l'individu, son être, son âme. Et on a construit un monde basé sur les forces extérieures, sur le pouvoir politique ou un pouvoir de Dieu. Et tout ça, c'est extrêmement déroutant, l'individu souffre partout. Donc nous avons besoin d'égaliser. Le monde est celui qui regarde le monde ont de même importance. Le témoin est plus important que le monde qu'il voit parce que le monde peut s'effacer mais le témoin non. Donc cette éternité des témoins, on a besoin d'affirmer. Le témoin est éternel, le monde c'est éphémère. Et là, la Advaita Vedanta, c'est comment on peut créer cette égalité de l'importance du monde et l'individu qui regarde le monde. Cette étude a été faite, affirmée à travers des milliers des ouvrages. Les fondateurs de cette école, c'est Shankaracharya, mais bien avant, c'était bien mentionné, mais Shankaracharya a pu présenter au monde vers le 8e siècle comme une école. Donc c'est la 6e école de la tradition hindoue. Donc en commençant par Samkhya, Yoga, Nyaya, Mimamsa, etc. Donc on arrive, dernière école, c'est Advaita Vedanta. C'est la fin de la connaissance. S'il y a un début de la connaissance, il y a une fin. C'est la fin, c'est-à-dire chaque sensation naît dans un contact sensoriel. Et à partir de cette sensation sensorielle, on fabule beaucoup, on imagine beaucoup le passé, le présent, l'avenir projeté. Tout ensemble, on crée un monde. Ce monde, c'est pas forcément vrai. Ça, c'est un monde que nous créons mentalement, partiellement mentalement. Et il y a aussi une base des données qui arrivent à travers des sensations sensorielles. Mais Advaita Vedanta qui nous amène, en fait, si nous sommes capables de créer ce monde, nous pouvons aussi arrêter de créer et finalement se retrouver dans la paix.
Quand tu parles d'illusion, c'est ce qu'on appelle le grand Maha ou Maha y a...
Maya, c'est une notion très importante de comprendre. Il y a une possibilité d'erreur. Maya, ça veut dire la possibilité d'erreur dans notre vie. On peut se tromper. On peut se tromper dans des milliers de façons. Et quand je regarde une table, j'appelle une table, mais en fait, c'est des bois mortes. À une certaine forme. Donc, notre regard peut être arrêté par une première lecture sur la forme. Donc, on peut avoir une vision perspicace, une vision profonde. C'est-à-dire, l'univers, en fait, c'est conscience, énergie, prakriti purusha. Et partout, il y a deux principes, énergie et conscience. Les deux sont à la fois opposés et à la fois coéternels, mais leur rencontre fait apparaître ce monde.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et qu'est-ce que tu partages ici? Sur quelle thématique tu interviens sur le festival?
Je parle de, fondamentalement, le besoin d'agir pour protéger la Terre. Parce que notre présence d'être humain sur Terre maintenant est devenue capable de troubler vraiment le fonctionnement de la Terre. Nous sommes la cause principale du réchauffement climatique et disparition d'énormément d'espèces. On trouble la mer, on coupe les forêts, on pollue l'air, la terre. Et donc maintenant, d'autant plus important de penser à notre environnement. Mais comment on peut sacraliser cela? L'hindouisme, c'est l'adoration de la nature. Il n'y a pas de séparation entre le créateur et la création. La nature est sacrée. C'est pour ça que les hindous adorent les rivières, les montagnes, le soleil, la lune. C'est pas simplement le phénomène, c'est pas un animisme. On voit que le sacré se dévoile comme la nature. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la mort pour rencontrer Dieu. Il vaut mieux de rencontrer Dieu qui s'exprime en tant que la vie, en tant que la nature. Donc, il est important de réaliser que nous sommes très orgueilleux et égoïstes et nous regardons le monde comme un gâteau à dévorer. Cet aspect, en fait, ce comportement, c'est extrêmement néfaste. Ça peut mettre pas seulement la vie en danger d'autres espèces, aussi l'être humain. Donc, notre quête spirituelle n'est pas séparée de la protection de la Terre. Je parle donc d'être un Gaia Healer. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé une école pour protéger la Terre, devenir guérisseur de la Terre.
Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui dans le monde? Parce que cette humanité, tu parles de déconnexion, tu dis qu'on est dans l'illusion du matériel, qu'on cherche la joie à l'extérieur et pas à l'intérieur. Aujourd'hui, on est 6, peut-être 7 milliards sur Terre. Donc, quelle est la direction que tu observes pour l'humanité, force de ta connaissance et de la sagesse que tu partages?
Chaque individu doit décider si on apprend par des souffrances ou bien avant qu'on arrive dans la souffrance, on apprend. Donc c'est une question de chaque individu. Et le comportement de masse, c'est une chose, le comportement de l'individu, c'est une autre chose. Donc le masse, la psychologie des masses, c'est différent parce que le monde droit vers la catastrophe. Et le monde ne peut pas réagir. Mais les individus, ils peuvent. Nos dirigeants, ils vont pas nous dire arrêtez, vous courir, prends soin de vous, il faut s'asseoir, fais la respiration consciente et fais un chemin spirituel. C'est les politiciens ou aucune autorité qui s'intéresse à l'individu. Ils s'intéressent uniquement à leur pouvoir. Donc on peut pas espérer un jour le monde collectivement va être dirigé vers la bonne direction. C'est le choix de chaque individu. Je crois à ça. Les sociétés sont que des étiquettes. Les individus, c'est une véritable réalité. Donc, le plus que le monde, chaque individu prend responsabilité, le monde, l'avenir peut changer. Et sans cette prise de conscience, je ne pense pas venir. Donc, les grands festivals comme ça, le mouvement spirituel, mais encore marginal. Mais si ça prend de l'ampleur, certainement, il y a un changement au niveau de la direction du monde. Sinon, on va se tuer nous-mêmes.
Donc, tu appelles quelque part à l'insurrection des consciences, hein, remettre plus de spiritualité, de conscience dans nos vies, dans notre quotidien.
Exactement, exactement. Donc nous avons besoin de s'éveiller la conscience. Ce besoin est perpétuellement présent. Il y a 2000 ans, c'était nécessaire et aujourd'hui, c'est nécessaire. Il sera toujours nécessaire parce que le confort s'endort. Plus que nous cherchons le confort, et on devient un peu endormi. Donc il est nécessaire de stimuler notre intellect, éveiller notre intelligence pour pouvoir voir clair. Donc, yoga, c'est un outil. Notre école cherche à amener une forme de yoga plus réaliste.
Et ma dernière question, Karchi, c'est alors comment faire pour développer ou éveiller sa conscience?
Il y a un effort personnel. C'est 99%, c'est l'effort personnel. Et après, bien sûr, les guidances peuvent arriver de l'extérieur, mais l'investissement personnel, ça compte. Donc, mettez-vous sur le tapis, observez votre corps, votre souffle, vos émotions, vos pensées, et approfondissez votre connaissance de soi. Et dans ce chemin, vous allez régler tous vos problèmes, et ainsi les problèmes du monde.
Peut-être pour terminer, une lecture qui pour toi est inspirante, pour commencer sa mise en chemin vers plus de conscience et plus d'éveil.
Pour construire véritablement notre intérieur établi dans la paix, je conseillerais deux livres, Samkhya-Karika et Yoga Sutra. Ces deux livres, ce sont fondamentaux parce que le Samkhya nous donne un véritable outil pour comprendre soi-même et le monde. Et puis le yoga, c'est la méthode pour acquérir la sérénité intérieure. Le Yoga Sutra et le Samkhya-Karika.
Merci, Karchi.
Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci pour cette occasion.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.